France Musique.
Et notre légende du jour nous est proposée à nouveau par le Diapason du mois d'octobre et sa collection des indispensables avec ce mois-ci le concerto pour violoncelle d'Antonin Dvorak par Pierre Fournier, Georges Selle et le Philharmonique de Berlin. C'était en 1961. C'est un disque, on va dire, sans histoire. Il n'y a pas d'anecdote dessus, ni sur la rencontre entre ces monstres-là, ni sur celle entre le Philharmonique de Berlin et Georges Selle. Ils se rencontraient pas pour la première fois, mais en fait, ils ont très peu travaillé ensemble et c'est leur seul enregistrement de studio. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Pierre Fournier, comme tous les violoncellistes, a enregistré beaucoup le concerto de Dvorak, enfin tous les violoncellistes. Au niveau de Pierre Fournier, bien évidemment, 8 fois quand même, hein, dont 5 en live. On peut dire que cette version avec Georges Selle est peut-être la plus aboutie, la plus parfaite. Faut dire Georges Selle était un chef à surveiller ses musiciens et même ses solistes. Malgré tout, l'épanchement, il est présent, surtout quand il le faut, c'est-à-dire tout simplement dans l'adagio de ce concerto pour violoncelle. C'était l'adagio du concerto pour violoncelle d'Antonín Dvořák, le second doit-on préciser parfois, puisqu'on a eu un premier, même s'il n'a pas été orchestré. Georges Sell dirigeait ici l'Orchestre Philharmonique de Berlin, Pierre Fournier était à l'archet, si j'ose dire, ou au chant tout simplement. C'était en 1961 pour Deutsche Grammophon, un disque qui a obtenu à l'époque tous les grands prix possibles et qui est d'ailleurs resté en tête des discographies de cette œuvre jusqu'à aujourd'hui encore. On comprend pourquoi quand on le réécoute, la capacité de l'un à l'autre, Georges Sell et Pierre Fournier, à emballer le discours est absolument irrésistible. Ce concerto pour violoncelle d'Antonín Dvořák fait donc maintenant partie de la collection des indispensables de Diapason. Et puis aussi, c'était votre disque de légende du jour à retrouver et podcaster sur francemusique.fr.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Le carnaval au quatrième acte du Timbre d'argent, dirigé par François-Xavier Roth avec l'orchestre Les Siècles, Kesako, le Timbre d'argent, bah tout simplement le premier opéra de Camille Saint-Saëns. Il n'avait même pas 30 ans quand il s'est lancé là-dedans. Il a connu des déboires absolument épouvantables. Il a fallu attendre 1877, 13 ans de malheurs divers et variés avant d'arriver à donner cette œuvre. Et puis il l'a reprise maintes et une fois jusqu'à l'âge de quasiment 80 ans. La dernière refonte de ce Timbre d'argent, c'était 1914. Une sorte d'opéra maudit, donc, faut dire, ça nous raconte des choses absolument abracadabrantesque. C'est une fantaisie où il y a à la fois de l'onirisme, du fantastique. Vous croisez des balades, du carnaval, celui qu'on vient d'entendre, une noce paysanne. Il y a une danse de l'abeille, un chœur de sirène. Enfin, il se passe mille et une choses, toutes plus loufoques les unes que les autres. Et ça se termine en fait par un réveil. C'est-à-dire qu'à la fin, vous savez, le truc classique dans le cinéma, tout d'un coup, le héros se réveille. Oh, j'avais rêvé! C'est bien bête, mais ça existait déjà dans l'opéra du 19e siècle, la preuve. Bon, c'est quand même très réjouissant à entendre. Et puis c'est assez significatif aussi de la veine du jeune Saint-Saëns. 28 ans et des mélodies plein la tête. Le bonheur est chose légère, chante Hélène dans le timbre d'argent de Camille Saint-Saëns. Ce rôle d'Hélène ici interprété justement par Hélène Guilmette. Les siècles dirigés par François-Xavier Roth. Peut-être certains d'entre vous ont revu la production de ce timbre d'argent à l'Opéra Comique en 2017. C'est évidemment à la suite de ce spectacle qu'a été enregistré ce coffret pour le Palazzetto Bruzane. Diapason d'or de ce mois d'octobre 2020, fort mérité, parce que c'est une découverte. Et puis comme vous l'entendez, c'est très très bien fait tout ça. La distribution, Hélène Guilmette qu'on vient d'entendre, Edgaras Montvidas, Tassis Christoyanis, et puis deux chanteurs qu'on va voir ici en duo, Jody DeVos et Yu Shao.
Le papillon de nuit aimait étoile, dont l'éclat scintille et luit dans le ciel sans voile. Vainement il prend l'essor pour voler vers elle. Il tombe et s'élance encore, l'air manque à son aile. L'amour qui passait par là,
c'était Jeudi de Vaux, c'est You Shao qu'on entendait dans ce dernier extrait du Timbre d'argent de Camille Saint-Saëns, Les siècles François-Xavier Roth, et ça vient de paraître dans la collection du Palazzetto Bruzane.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Autre diapason d'or de ce mois d'octobre, Londres autour de 1720. Dit comme ça, ça n'a pas l'air très excitant. Hein. C'est un disque quand même, il est signé La Rêveuse, c'est-à-dire Florence Bolton et Benjamin Perrault. Et malgré le programme qui n'a pas l'air très chaud, ben croyez-moi, il y a plein de musique à découvrir fascinante à l'intérieur, puisque c'est le moment, c'est tout début du XVIIIe siècle, où l'influence italienne commence à irriguer tout le monde anglais, jusqu'à devenir une véritable fureur. On voit tout un ensemble de compositeurs, aussi bien Geminiani que Babel, Babel, aller s'abreuver à la source corélienne qui est le grand compositeur, la grande référence de ce temps-là. Et puis on voit aussi quelques petits tripatouillages commerciaux et musicaux à la fois, qui sont quand même assez réjouissants. Exemple, ce monsieur Schickhardt, qui reprend à un certain moment des concertis grossis de Corelli. Il les reprend, il les réécrit, refait certains mouvements, tout simplement pour que ce soit bien riant et bien vendu auprès du public londonien. Bah, il se trouve que, combien, trois siècles après, ça tient encore le disque.
Thank you.
Quatre mouvements de cette sonate en fa majeur de Johann Christian Schickhardt, qui a repris, recousu ensemble, adapté, réinstrumenté quelques mouvements des concerti grossi opusi d'Arcangelo Corelli, l'ensemble La Rêveuse sur ce disque intitulé London circa 1720. Ça vient de paraître chez Harmonia Mundi avec un diapason d'or à la clé. De même, diapason d'or que pour ces symphonies de Max Bruhr, elle avec quelques ouvertures pour faire bonne mesure. Émilie Ménéra et Rodolphe Bonhomme-Mulnier vous ont déjà causé de ce disque ce matin. C'est vrai qu'il est vraiment très très bien, fort bien réalisé par l'orchestre symphonique de Bamberg, dirigé par Robert Trevino. C'est l'occasion de vérifier que Max Bruhr est un compositeur vraiment complet, infiniment plus riche que ce que ses concertos pour violon laissent communément penser, ainsi que nous le dit toute cette fin de semaine François-Xavier Chomchak, juste avant moi. Comme des symphonies on en a déjà eu sur cette antenne aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire entendre cette ouverture de la Lorelei, qui fut en fait fait le coup de maître ou de coup de théâtre que souhaitait Max Bruch en son début de carrière. Il avait 25 ans, il voulait se faire un nom à l'opéra, ça n'a pas bien marché. L'ouvrage créé à Mannheim en 1863 a été très apprécié des critiques, mais enfin le public, semble-t-il, avait Wagner dans l'oreille et ne voulait plus que du Wagner. C'est pourtant bien beau, l'ouverture de la Lorelei, la voici.
Thank you.
C'est beau ça, hein. Et tout l'album est comme ça, non seulement parce que les œuvres sont de cette tenue, mais la direction l'est aussi. C'était donc l'ouverture de la Lorelei de Max Bruhr, l'orchestre symphonique de Bamberg, dirigé par Robert Trevino. C'est paru chez CPO.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Dans les diapasons d'or, il y a bien sûr des nouveautés, mais des rééditions ne sauraient les manquer. Ainsi, celle-ci, Itzhak Perlman, 18 disques en coffret pour évoquer l'origine du violoniste, si on veut, c'est-à-dire ses premiers albums chez RCA et Columbia. C'était aux États-Unis dans les années 60 et les années 70. C'était l'époque où l'on découvrait Itzhak Perlman, comme dit Jean-Michel Molcou, sa sonorité chaleureuse, son vibrato généreux, son lyrisme épanoui et sa virtuosité sans entache.
Thank you.
comment qu'il fait le monsieur? Ben, on sait pas comment qu'il fait. Ce doit pas être tout à fait un monsieur. C'est un peu plus que ça. C'est un violoniste. Et de quel trempe, Itzhak Perlman, qu'on entendait ici dans cette ronde des lutins d'Antonio Bazzini, avec au piano David Garvey. C'était en 1965, cet enregistrement. Repris dans ce grand coffret Itzhak Perlman de 18 disques chez Sony. Diapason d'or côté réédition. Tiens, coin du collectionneur. Voici venir le roi Roger.
Oh,
Grande forme, Jeannine Michaud, pour chanter « Je suis Titania la blonde », extrait de Mignon d'Ambroise Thomas, l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire, dirigé en 1949 par Roger Desormières. Le roi Roger, donc, qui fait l'objet d'un coffret de 4 disques, la fin des années 40, le début des années 50 pour cette carrière dont on sait qu'elle fut un peu foudroyée. Roger Desormières, c'est bien sûr le Péléas et Mélisande dont on a parlé la semaine dernière en disque de légende. On aurait tendance à réduire la carrière du chef à ça, il a été bien d'autres choses. Un chef très curieux, très tourné vers la musique française, comme le révèle ce coffret. Mais pas seulement. On va entendre ici Roger Desormières dirigeant Tchaïkovski et cette valse de la Belle au bois dormant.
Thank you.
C'est Roger Desormières qui dirigeait ici la valse de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski en 1951. Un gros coffret Deka collection éloquence pour Roger Desormières qui vient donc d'obtenir un diapason d'or. Le mensuel diapason du mois d'octobre est disponible, je vous le rappelle, dans tous les bons kiosques, même dans les mauvais, enfin dans tous les kiosques tout court. Un grand merci à Flora Sternadel, Antoine Courtin et Jean Frédérics. Je vous retrouve sur internet par francemusique.fr. Vous allez chercher la page de Relax. Vous aurez toutes les informations, la programmation, le podcast, la réécoute et même si vous êtes sage, le billet de l'auto gagnant. Je dis ça juste pour vous attirer. Bonjour Élie Moreau.
Bonjour Lionel.
Dites-moi, on peut le dire, le Van, ce n'est rien qu'une grande série de variations sur le thème Beethoven.
Exactement. C'est très bien dit. En tout cas, aujourd'hui, précisément, c'est l'art de la variation selon l'ami Beethoven. Bien sûr, on vous retrouve demain, cher Lionel.
À
15h. À 15h, dans le dernier relax de la semaine qui
absolument.
Sera consacré à... Vous ne savez pas encore.
C'est toujours la question
c'est
piège.
C'est la surprise, c'est la grande surprise.
Je le sais, mais je l'ai oublié.
D'accord. À demain, Lionel.
À demain, quand même.
À réécouter sur francemusique.fr.